On parle souvent du besoin de connaître soi-même. Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. On va essayer de nous connaître en tant que chrétiens. Qui sommes-nous? Eh bien, lisons ces versets dans 1 Jean chapitre 3. Je vais lire les trois premiers versets. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a point connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Voici la parole de Dieu. L'apôtre s'occupe ici avec l'état du croyant et sa relation avec Dieu et en deuxième cas sa relation avec le monde qui suit de sa relation avec Dieu. Et l'état du croyant est considéré sous deux entêtes, l'état présent, actuel et l'état futur. Notez le verset 2, regardez-le. Bien-aimés, nous sommes quoi? Maintenant. Ainsi, il indique tout d'abord ce que nous sommes, notre état actuel, aujourd'hui. Et qu'est-ce que c'est? Nous sommes quoi? Nous sommes enfants de Dieu. Alors, les deux premiers chapitres de 1 Jean, on ne les a pas lus, mais ils soulignent la communion avec Dieu, la communion mutuelle que nous pouvons avoir avec Dieu. Mais ici, dans le troisième chapitre, Jean creuse encore plus profond, non seulement, dit Jean, Christ a-t-il pourvu la communion avec Dieu, mais il vous a également rendu enfants de Dieu. Bon, c'est ce que nous sommes. Mais notez deuxièmement le reste du verset. Verset 2. Et ce que nous, quoi, serons, n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Alors nous voyons non seulement ce que nous sommes, mais ce que nous, quoi, ce que nous serons. Alors ce matin, nous nous concernerions par le premier de ces entêtes, ce que nous sommes. Et j'espère la semaine prochaine de revenir à ce texte pour voir ce que nous serons. Mais qui sommes-nous? Nous sommes enfants de Dieu. Nous voyons cette vérité répétée 4 fois dans ce texte. Regardez encore le verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Alors nous voyons d'abord la désignation de Dieu. Il s'appelle qui ou comment ici? Il s'appelle le Père. C'est le Père. Alors déjà dans cette phrase uniquement une grande vérité est communiquée. Dieu, il se présente comme Père. Bon, alors une deuxième fois, il est indiqué, on continue à lire, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Ensuite, j'en répète la vérité une troisième fois en ajoutant, et nous le sommes. Finalement, dans le verset 2, il indique une quatrième fois, regardez-le, bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Alors vous ne pouvez pas le rater, hein? Nous l'avons ici très clair. Nous sommes, qui sommes-nous? Nous sommes enfants de Dieu. Bon, qu'est-ce que ça veut dire quand ça nous appelle enfants de Dieu? Je veux considérer d'abord la signification de cette enfance. Ce que ça signifie d'être un enfant de Dieu. Quand la Bible nous appelle en tant que chrétiens enfants du Dieu divin, qu'est-ce que ça signifie? C'est quoi la signification de ce titre? Le mot en grec, technon, est normalement rendu enfant au lieu de fils, et c'est une bonne traduction, parce qu'il y a des endroits où nous sommes tous, hommes et femmes, appelés fils de Dieu. Mais ici, on nous appelle des enfants. Et pourquoi il y a cette distinction? Parce que être enfant ne parle pas tellement de notre position devant Dieu, mais de notre nature que Dieu nous donne. Il y a une certaine position qui est bien communiquée par le terme « fils ». Dans ces cas-là, c'est parfaitement approprié d'appeler même nos sœurs en Christ, fils de Dieu, parce que nous avons tous le même standing, si vous voulez, devant Dieu. Nous sommes tous co-héritiers avec Christ. Quand Dieu nous appelle fils de Dieu, il y a cette idée de position devant Dieu. Nous allons hériter tout ce que Christ lui-même va hériter. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous avons ce standing d'être fils. Mais le mot qu'on trouve ici ne s'agit pas de la position d'une personne et ses droits devant Dieu, mais de sa nature. Ce qu'il est ou ce qu'elle est en tant qu'enfant de Dieu. Regardez le dernier verset du chapitre 2. On va reculer un seul verset. Enfin, moi, je crois que cette section que nous considérons commence avec chapitre 2, verset 29, au lieu de chapitre 3, verset 1. Mais regardez-le. 1 Jean 2, verset 19. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est... Et c'est quoi le mot suivant ? Est né de lui. Notez qu'il parle d'être né de lui, de Jésus, de Dieu. Une nouvelle naissance apporte donc une nouvelle nature et nous rend enfants de Dieu. C'est pourquoi je dis que quand Jean nous appelle enfants, il ne pense pas à notre position légale, mais à notre nature. Nous sommes ses enfants. Et c'est ça alors le portrait d'un chrétien. Il ou elle a la nature en lui ou en elle du Père céleste. C'est stupéfiant, n'est-ce pas? Il y a un échange très intéressant entre Jésus et les Juifs. Et gardez vos places parce qu'on va revenir tout à l'heure. Mais je veux que nous allions à l'évangile de Jean et le chapitre 8. Donc l'évangile de Jean, il y a Matthieu, Marc, Luc... et Jean. Donc tournez à l'évangile de Jean et cherchez le chapitre 8 et puis le verset 38. Jean 8 et verset 38. Il y a un échange que je trouve très intéressant entre Jésus et les Juifs. Alors c'est le même auteur humain, c'est Jean encore qui nous raconte cette histoire. Et ils sont en train de discuter le sujet des pères. Qui est mon père? Jean 8, verset 38, c'est Jésus qui parle et il dit « Je dis ce que j'ai vu chez mon père, vous voyez ça? Et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. » Alors clairement, Jésus a deux pères différents à l'esprit dans la tête. Et il rapporte la distinction entre ce qu'il enseigne et ce que les Juifs pratiquent à une distinction de quoi? De père. Ben on a deux pères différents. C'est ça le problème, dit Jésus. Bon, ceci met naturellement les Juifs sur la défensive et donc il répond, regardez le verset 39, ils lui répondirent, notre père, c'est Abraham. Alors Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Avant de continuer, dans le verset 39, notez le rapport essentiel qu'il établit entre le père d'un individu et sa façon de vie entière. Il dit, si vous étiez enfant d'Abraham, alors vous feriez les œuvres d'Abraham, parce qu'il y a ce rapport entre mon père et mes œuvres. Mais maintenant, verset 40, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, cela Abraham ne l'a point fait. Vous faites, 41, les œuvres de votre père. Alors une fois de plus, il mentionne leur père et le rapport qu'ils ont entre eux, mais il ne dit pas qui c'est. Pas encore. Par contre, il vient d'éliminer la possibilité que leur père soit Abraham. N'oubliez pas que ce sont des Juifs, hein? Alors il leur dit, votre père, une chose est certaine, ce n'est pas Abraham. Alors, ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Vous savez ce qu'ils sont en train de dire ici? Ça, c'est une suggestion peu voilée que Jésus était lui-même un enfant illégitime. Il y avait certainement des histoires qui parcouraient dans le village et dans le pays au sujet de la naissance de Jésus. Et si on va parler de père, eh bien on peut dire ça. Et nous, au moins, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père. Et c'est qui? Que dit-il? C'est Dieu. Alors, ils ont encore plus d'audace. Hein? Si vous allez dire que ce n'est pas Abraham, alors c'est Dieu. Jésus leur dit, regardez le verset 42, « Si Dieu était votre Père, alors vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. » Alors, il vient d'établir le fait qu'ils n'ont pour Père ni Abraham, ni Dieu. Alors, c'est qui leur Père? Vous avez pour père qui? C'est qui? Le diable. Oh là là. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, eh bien, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Et vous êtes ses enfants. C'est ce que Jésus dit. Vous êtes ses enfants. Vous êtes les enfants du diable. Alors regardez maintenant Éphésiens chapitre 2. Je sais qu'on va tourner à plusieurs versets. Normalement, j'aime rester sur un seul texte. Mais en considérant ce sujet d'être enfant de Dieu ou enfant du diable, il faut qu'on regarde ensemble les versets qui en parlent. C'est clair que Jésus parle de la nature spirituelle, hein, pas physique. Jésus n'est pas en train de disputer le fait qu'ils sont juifs. Il dit, il n'est pas en train de dire, vous n'êtes pas juifs. Non, non, bien sûr, dans un sens physique, ils ont comme père Abraham. Mais spirituellement, ils ont comme père le diable. Et vous savez que tous ceux qui ne sont pas régénérés, tous ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, qui n'ont pas reçu cette nature divine de la part de Dieu, ont la nature du diable. Alors vous dites, vous n'allez pas me dire que j'ai le diable comme père. Eh bien tout d'abord, ce n'est pas moi qui le dis. Mais vous n'êtes pas tout seul, hein? Vous n'êtes pas tout seul à avoir cette nature terrible, mais Éphésiens 2, verset 3, « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous aussi, nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature, des enfants de colère comme les autres. » C'est-à-dire des enfants de colère, sous la colère de Dieu et le jugement de Dieu qui va venir sur nous. Nous étions tous par nature des enfants de colère. Nous étions tous par nature enfants du diable, ayant le diable comme père. Et bien ça, c'est le témoignage de chacun ici ce matin. Soit vous aviez, soit c'était dans le passé, mais nous tous, nous étions de leur nombre. Et nous avions tous eu le diable comme père et la nature des enfants de colère. Alors, c'est quoi qui a fait le changement? C'est quoi qui change notre état, notre nature, depuis un enfant de colère pour devenir un enfant de Dieu? Eh bien, regardez 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1, ça se trouve presque à la fin du Nouveau Testament. Il y a deux épîtres de Pierre, 1 Pierre, 2 Pierre. Regardons 2 Pierre, le premier chapitre et le quatrième verset, 2 Pierre 1, 4, où Pierre, l'apôtre Pierre, indique aux croyants que nous avons été donnés les plus grandes et les plus précieuses promesses. Vous voyez ça, 2 Pierre 1, 4? On a reçu les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elles vous deveniez, et c'est ça que je veux qu'on regarde ensemble, participant de la nature divine. Alors nous étions des enfants de colère, mais par ses promesses, par elles, nous devenions participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ainsi, c'est qui un chrétien? Essayez de suivre cela. Un chrétien, c'est quelqu'un qui était autrefois, par nature, un enfant de colère et du diable, mais qui est devenu un participant de la nature divine de Dieu. Et c'est la même vérité que Jean exprime quand il appelle les croyants enfants de Dieu. Il signifie que nous partageons la nature même de Dieu. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Pas seulement par adoption légale, mais par l'ADN, si vous voulez dire. Paul dit ceci en Éphésiens 2, ne le cherchez pas, mais je vais le lire. Éphésiens 2, 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu, ou encore mieux, gens de la famille de Dieu. Vous êtes maintenant partie, vous faites partie de la famille de Dieu. C'est merveilleux. Jésus a enseigné la même vérité quand il a parlé des chrétiens en tant que ceux qui sont nés de l'Esprit. Vous vous rappelez en Jean chapitre 3, ceux qui sont nés de l'Esprit, c'est la même vérité. Ça leur rend enfants de Dieu. Ils ont reçu cette nature de l'Esprit. C'est la même chose Jésus enseigne quand il parle de lui-même comme la vigne et nous comme les branches. C'est la même vie qui passe depuis la vigne aux branches. Donc le christianisme n'est pas quelque chose que vous faites, c'est quelque chose que vous quoi? Que vous êtes. Ce n'est pas quelque chose que vous faites, c'est quelque chose que vous êtes. Vous êtes enfant de Dieu. Vous savez, beaucoup de dégâts ont été faits par de personnes bien motivées, je suis sûr, mais qui présentent la bonne nouvelle de l'Évangile en tant que quelque chose que vous faisiez. Et une fois que vous faites ce que vous êtes censé faire, vous devenez un chrétien. Et ces gens sont exhortés à croire que puisqu'ils ont fait ou puisqu'ils ont prié, eh bien alors ils doivent être sauvés. Et ainsi vous trouvez des personnes qui basent l'intégralité de leur assurance, de l'assurance qu'elles ont, qui sont véritablement sauvées, ils basent la totalité de leur assurance sur quelque chose qu'ils ont fait. Et alors vous allez leur demander, comment savez-vous que vous êtes sauvés? Ah, dit-il, parce que j'ai prié, ou parce que j'ai fait ceci, ou parce que je suis. Ils pensent toujours dans la catégorie de ce que j'ai fait. Et c'est ça le problème. C'est pas ça qui me rend un enfant de Dieu. Vous voyez maintenant qu'il n'y a rien que je puisse faire pour devenir un participant de la nature divine. Pierre nous dit, c'est par ses promesses que vous deveniez participant de la nature divine. Je ne peux pas implanter la nouvelle vie en moi. Il n'y a absolument rien que je puisse faire pour être sauvé, pour me rendre un enfant de Dieu. Le salut n'est pas de l'homme, il est du Seigneur. Et c'est pourquoi le geôlier, quand il a demandé à Paul et Silas, vous vous rappelez de cette histoire, il a dit, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Que faut-il que je fasse? Ils ne lui ont pas donné quelque chose à faire. Ils ne lui ont pas dit, ah ben c'est ça, et ça, et ça. Non, non. Ils ne lui ont dit pas, fais, mais crois. Crois au nom du Seigneur Jésus. Et la Bible, vous savez, la Bible enlève la croyance, la foi, complètement hors de la catégorie des œuvres, Parce que quand je mets ma foi, ben, ça doit toujours être en quelque chose. Donc de croire, c'est de mettre sa confiance dans les œuvres d'un autre. Et de ne mettre aucune confiance dans mes propres capacités. C'est ça ce que veut dire la croyance, la foi. Je mets ma confiance dans les œuvres d'un autre. C'est pour ça la foi et les œuvres ne vont jamais ensemble. On ne peut jamais les mélanger. Donc, en retournant à notre texte qui se trouve dans 1 Jean chapitre 3, nous posons maintenant la question. Comment puis-je devenir un participant de cette nature divine? Comment est-ce que je deviens un enfant de Dieu qui partage sa nature? Bon, on a vu la signification de cette enfance, et c'est ce que nous sommes participants de sa nature maintenant. Plus les enfants du diable, maintenant les enfants de Dieu, participants de sa nature qu'il nous donne. Considérez deuxièmement l'acquisition de cette enfance. Comment est-ce qu'elle est acquise? Bon, on en a déjà parlé, mais je veux que vous voyez dans le texte. 1 Jean chapitre 3 et le verset 1. 1 Jean 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a. Et dans le Louis II, on a le mot témoigner. Vous voyez ça? Témoigner. Mais ce mot en grec se trouve encore deux fois dans ce même chapitre, dans les deux derniers versets. Et c'est mieux traduit là-bas. Donc on va les regarder, puis on va amener cette traduction, on va le mettre dans le verset 1. Regardez le verset 23. Okay, on cherche le même mot qui est traduit « témoigner », mais qui se trouve dans le verset 23 et puis le verset 24. Verset 23. Et c'est ici, son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a, quoi ? Donné. C'est ça le mot qui se trouve dans le verset 1. Donner. Encore une fois dans le verset 24. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qui nous a, quoi ? Donné. Donc, trois fois que ça apparaît dans le chapitre. Deux fois c'est traduit donné. Je crois que la première fois, ça doit être aussi traduit donné. On peut l'écrire même au-dessus du mot témoigner. C'est le mot didomi en grec, ce qui signifie un cadeau immérité. Ça signifie toujours un cadeau qui est immérité, qu'on n'a pas mérité. Et le temps du verbe qui est utilisé communique que ce qu'elles avaient reçu est permanent et demeurant. On vous a donné quelque chose de permanent, de demeurant. C'est quelque chose donc que Dieu nous a donné. On peut le lire comme ça. Chapitre 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a donné. C'est quelque chose accordé. C'est quelque chose qui est offert. Alors, pour répondre à la question, comment est-ce qu'on reçoit? Comment est-ce qu'elle est acquise, cette enfance? Eh bien, la réponse, c'est ça. Elle est donnée comme un don non mérité. Alors, que faut-il que je fasse? Ah, elle est donnée. C'est quelque chose que Dieu donne. Vous rappelez que Dieu est amour, n'est-ce pas? C'est dans cette même épître qu'il nous est dit que Dieu est amour, c'est sa nature, et maintenant il nous accorde sa nature. Voyez quel amour, voyez ça dans le verset 1, quel amour le Père nous a donné. La motivation, c'est l'amour, et on trouve ça même dans Jean 3, 16, car Dieu a tant, quoi? Aimé le monde qu'il a donné. On pourrait dire ici, car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a fait des participants de sa nature divine. Alors, soit vous êtes ce matin enfant de Dieu, ou vous ne l'êtes pas, mais si vous êtes un enfant, c'est parce que cette grâce vous a été accordée. C'est pas parce que vous avez fait quelque chose, hein. C'est parce que Dieu vous l'a donné. La conduite ne détermine pas la nature. Ici, comme dans tous les épîtres, l'appel à notre conduite est basé sur notre position, sur notre nature en Christ, jamais dans notre sens. On ne trouve jamais les apôtres en train de dire il faut agir comme ceci afin d'être enfant de Dieu. Non, c'est toujours dans notre sens. Puisque vous êtes enfant de Dieu, il faut agir comme ceci. Ou, comme on le trouve en Romains chapitre 12, je vous exhorte donc, frères. Il met 11 chapitres à nous enseigner la doctrine. Et puis il dit, donc, je vous exhorte, frère, de vivre comme ceci. Donc la nature d'un enfant de Dieu, vous savez, pendant la période de son pèlerinage terrestre ici, par terre, la nature d'un enfant de Dieu, quelqu'un qui est sauvé, transforme du simple au complexe. Parce que la nature d'une personne non régénérée est plutôt simple. Ok, Jésus l'a dit lui-même. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Voilà, ça explique celui qui n'est pas sauvé. Bon, ils ont une conscience, ils ont la loi de Dieu même écrite dans le cœur, qui s'excuse ou qui accuse de tour en tour, c'est vrai, ils n'ont pas cette paix, mais leur nature c'est assez simple. Mais dès qu'on devient un enfant de Dieu et qu'on reçoit sa nature, ça devient plus complexe. Parce que il y a toujours cette nature non régénérée qui demeure dans le chrétien, une partie de, je dois dire, une partie de sa nature qui reste non régénérée et qui demeure toujours en lui. Alors, ceci soulève une question très importante. On pose probablement la question, comment puis-je savoir que je suis un enfant de Dieu? Comment puis-je le savoir? J'espère que vous voulez vous demander cette question. Parce que si vous voyez le verset, Jean, il l'assume de ses lecteurs. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Il assume que ses lecteurs sont chrétiens, sont sauvés, sont enfants de Dieu. Mais comment puis-je le savoir? Vous savez, en effet, c'est le but de cette épître. Il dit qu'il écrit cette épître afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Et dans cette épître, Jean leur donne des tests divers qu'ils peuvent employer pour venir à l'assurance qu'ils ont la vie éternelle. On pourrait dire que la motivation de Jean, en écrivant cette épître, c'est l'assurance. L'assurance des saints concernant la réalité de leur profession. Si vous voulez savoir, est-ce que je suis réellement un chrétien, un enfant de Dieu, ben je vous suggère que vous allez à l'épître de 1 Jean. Il y a certaines pratiques, il y a certaines attitudes que s'ils sont présentes dans ma vie, ne me donnent aucun droit à l'assurance. Par exemple, l'obéissance est l'un des tests. Prenez l'injonction d'être baptisé, par exemple. Si quelqu'un refuse abstinemment et constamment d'être baptisé, alors cette personne n'a aucun droit au plaisir personnel de l'assurance. Parce que si nous disons, chapitre 1, verset 7, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, eh bien nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Donc l'obéissance, c'est un des tests au commandement de Dieu. L'amour pour les frères, c'est un autre test. Regardez, chapitre 3, vous y êtes déjà, le verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Comment? Comment le savons-nous? Parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans l'amour. Donc, il y a d'autres tests. Ok, le but de Jean, dans cet épître, c'est l'assurance du salut. Il dit, je vais vous lire quelques versets, écoutez-les. Chapitre 2, verset 3. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Chapitre 2, verset 5. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui, par là nous savons que nous sommes en lui. Chapitre 3, verset 24. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Chapitre 4, verset 13. Nous connaissons qu'il demeure en nous, que nous demeurons en lui, pardon, et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son Esprit. Chapitre 5, verset 13. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Et plein d'autres. Le but de Jean, en cette épître, c'est d'administrer l'assurance. Et l'assurance du salut, l'assurance que j'ai d'être un enfant de Dieu, peut seulement être donnée et être appréciée par ceux qui passent ces épreuves. Mais je dis tout cela pour vous dire que ce n'est pas de cela que je veux parler. Je ne veux pas parler de l'assurance personnelle que j'ai de mon salut. Je veux quitter cette épître pour demander une question même plus importante. Je veux maintenant découvrir l'identité de ces enfants. On a vu l'acquisition de cet enfant, c'est un cadeau qui est librement accordé. Mais troisièmement, considérer l'identité de ces enfants. La question ici n'est plus comment puis-je être assuré que je suis un enfant ? Ça, c'est plus la question que je pose. Comment puis-je être assuré que je suis un enfant de Dieu ? Mais la question, c'est ceci. Qu'est-ce qui me donne le droit d'être un enfant de Dieu ? Vous comprenez la différence ? La première est une question d'assurance. Est-ce que moi j'ai l'assurance dans mon cœur ? Mais la seconde est une question d'autorité, de droit. Et ces deux questions doivent être soigneusement distinguées dans nos pensées. Laisse-moi illustrer comment fils Miché, quand il n'avait que quelques mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, sa connaissance de moi en tant que son père était toujours en train de développer. Alors à 3 mois, si vous auriez demandé à mon fils, où est ton père ? Il n'aurait pas pu vous le dire, hein ? Sa connaissance de moi, son assurance, si vous voulez, que j'étais son père, a grandi, a développé avec son âge. Mais jamais le droit qu'il avait ou qu'il a de m'appeler son père. Je ne suis pas encore plus son père maintenant qu'il le reconnaît que j'étais le jour de sa naissance. Alors, je dois distinguer entre ce qui m'assure que je suis un enfant de Dieu et ce qui me donne le droit de m'appeler enfant de Dieu. Et on parlait un peu de ça vendredi soir avec les étudiants. Il y a beaucoup de choses, des choses subjectives, des choses objectives qui me sont données pour m'assurer de mon salut. Mais il y a seulement une chose qui me donne le droit au salut. L'autorité que j'ai de m'appeler un enfant de Dieu n'est pas la même chose que les raisons que j'ai pour m'assurer que je suis un enfant de Dieu. J'essaie de le dire dans plusieurs façons afin que nous pouvons tous comprendre ce que j'essaie de distinguer. Entre l'assurance que j'ai que je suis sauvé et l'autorité que j'ai d'être sauvé. Alors qu'est-ce qui nous donne le droit de nous appeler enfants de Dieu ? Eh bien ce n'est pas le fait que je garde certains commandements. Ce n'est pas le fait que je trouve en moi une certaine sympathie pour les croyants ou pour l'Église. Ce n'est aucune chose que je puisse faire. Et je trouve ça très marquant qu'il soit Jean qui parle tellement sur le sujet de l'assurance dans son épître, qui nous donne la réponse à cette question du droit que j'ai d'être un enfant de Dieu. Donc, pour la dernière fois, on va tourner encore à un autre chapitre, Jean chapitre 1. Puis on va revenir et on sera fini. L'évangile de Jean, donc il y a Matthieu, Marc, Luc et Jean, chapitre 1, chapitre 1er. Jean va répondre à cette question. Où je trouve le droit, l'autorité de devenir un enfant de Dieu. Jean 1, verset 9. Il parle de Jésus comme la lumière. Et il dit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle, la lumière qui est Jésus, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir, ou mieux, ce mot veut dire le droit ou l'autorité. Il a donné l'autorité, le droit, le pouvoir de devenir enfant. Technon, le même mot utilisé par Jean dans son épître. Enfant de Dieu. Il donne le droit, l'autorité à certaines personnes de devenir enfants de Dieu. Et de peur que vous soyez tentés de penser que c'est un processus normal et humain. Alors comment est-ce qu'on reçoit cette autorité? Alors c'est peut-être un processus normal et humain. Non, il ajoute, lequel sont nés, regardez le verset 13, non du sang, c'est-à-dire pas par une parenté normale, ni de la volonté de la chair, pas à cause d'une décision humaine, ni de la volonté de l'homme, mais de qui? Mais de Dieu. Vous voyez que ce n'est pas du tout un processus humain, mais de Dieu. Alors la nouvelle naissance, dont il parlera davantage dans le chapitre 3, avec Nicodème, n'est pas du tout un processus humain, mais un processus divin et miraculeux, fait par l'agence de l'Esprit, dans l'acte que nous appelons la régénération, où il nous donne la nouvelle vie. Mais qui a le droit à ceci? Qui a l'autorité d'être un enfant de Dieu? Vous avez vu, regardez le verset 12 encore, de Jean chapitre 1. Mais à tous ceux qui l'ont quoi? Reçu. Alors ça n'a rien à faire avec votre race, c'est pas par du sang, il a dit, le sang, ça n'a rien à faire avec ce que vous avez fait, pas par la volonté de l'homme, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la lumière qui est Jésus, a donné le droit, l'autorité de devenir enfant de Dieu. Alors n'ajoutons pas à l'écriture. Tout ce que je dois avoir pour recevoir cette autorité divine, autorité qu'aucun homme ne peut prendre, ne peut m'enlever, autorité devenir un enfant de Dieu, recevoir sa nature, c'est ceci: je le reçois et je crois en son nom. Alors c'est tout. Et misère à la personne qui le rendrait plus compliqué. L'évangile est un message simple. Il y a parmi vous, peut-être pas, mais il y a peut-être des gens qui ont entendu parler du catéchisme de Heidelberg. C'était rédigé à la demande de Frédéric le Troisième, prince électeur du Palatinat, c'était en Allemagne pendant le temps de la Réformation. Rédigé par une jeune équipe animée par deux théologiens réformés, Gaspard Olivianus, qui avait alors que 26 ans, et Zacharie Ursinus, qui avait 29 ans. Et le catéchisme de Heidelberg, publié en 1563, a été utilisé par un nombre croissant d'églises et de chrétiens dans le monde entier. Enfin, il est employé aujourd'hui du Pays-Bas à l'Afrique du Sud, de l'Amérique à l'Australie, de la France à la Corée et au Japon. Et c'est divisé en 52 dimanches, donc pour toute l'année. Et le premier dimanche, on trouve ça. Ça commence par cette question. Écoutez, je vais le lire. Quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort? Alors, je vous pose la question. Vous pouvez répondre dans vos esprits. Quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort? Alors, voici la réponse. C'est que dans la vie comme dans la mort, j'appartiens corps et âme, non pas à moi-même, mais à Jésus-Christ, mon fidèle sauveur, par son sang précieux, il a totalement payé pour tous mes péchés et m'a délivré de toute puissance du diable. Et puis ça continue. Ça, c'est ma confiance, mon assurance. C'est que j'appartiens non pas à moi-même, mais à Jésus-Christ, qui par son sang m'a sauvé. Et écoutez la deuxième question. Combien de choses dois-tu savoir pour vivre dans cette heureuse assurance? Alors, combien de choses dois-tu savoir pour vivre et pour mourir dans cette heureuse assurance? Tout le monde ici, j'espère, vous voulez vivre et vous voulez mourir dans cette heureuse assurance. Combien de choses faut-il savoir? Plusieurs parmi vous, vous êtes à l'université. Est-ce qu'il faut des années d'études? Que faut-il savoir? Ben, la réponse, c'est trois. Trois choses. Vous voulez savoir ce que c'est? Ou je vous laisse partir sans lire. D'abord, combien sont grands mon péché et ma misère. C'est comme Fernando a dit vendredi soir, il faut commencer par la mauvaise nouvelle. Il faut d'abord savoir combien sont grands mon péché et ma misère. Ensuite, comment j'en suis délivré. Et enfin, quelle reconnaissance je dois à Dieu pour cette délivrance. Voilà ce qu'il faut savoir. Pour vivre et pour mourir dans cette heureuse assurance. Combien sont grands mon péché, ma misère, comment j'en suis délivré, et quelle reconnaissance je dois à Dieu pour cette délivrance. Le 31 mars 1860, dans une tente à l'est de Londres, en Angleterre, un garçon appelé Rodney Smith est né dans une famille gitane. Il était le quatrième parmi 6 enfants. Et sa famille gagnait leur vie en faisant et en vendant des ustensiles de cuisine, des paniers, etc. Et le père de Rodney, qui s'appelait Cornelius, il ajoutait aux revenus de la famille en jouant son violon dans les tavernes locales. Et souvent, Rodney allait avec son père pour danser pendant que son père jouait. Et puis, il ramassait des sous en faisant cela. Mais la famille entière était illettrée. Ils ne pouvaient pas lire. Ils n'ont pas eu aucune éducation, comme la plupart des Béomiens en ce jour-là. Et la mère de Rodney est morte quand il était encore très jeune. Et peu après la mort de sa mère, son père a été converti. Et Rodney Smith, qui plus tard est devenu un évangéliste célèbre avec le surnom le Gitan Smith, c'est ce que tout le monde l'appelait en Angleterre. Il raconte sa propre conversion dans une chapelle à Cambridge, en Angleterre, le 17 novembre 1876. Et il dit qu'un vieil homme lui a cité Jean 1, verset 12, qu'on vient de lire. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle lui a donné le droit ou l'autorité de devenir enfant de Dieu. » Et puis l'homme l'a invité à faire confiance en Christ. Le gitan ensuite a rappelé le fait qu'il a dit en lui-même. C'est ses paroles, ce jour-là, après avoir entendu ce verset. « Eh bien, je ne peux pas me faire confiance parce que je ne suis rien, et je ne peux pas faire confiance dans ce que j'ai parce que je n'ai rien, et je ne peux pas faire confiance dans ce que je sais parce que je ne sais rien. » Et alors, ce jour même, il a mis sa confiance entière dans l'œuvre de Jésus-Christ. Et vous voyez, chacun qui vient à Christ doit venir en réalisant cela. Il ne peut pas se faire confiance parce qu'il ne sent rien. Il ne peut pas faire confiance en ce qu'ils ont et il ne peut pas faire confiance en ce qu'ils savent. Mais vous pouvez venir à Christ tel que vous êtes, vil et pécheur même, et le recevoir et croire en son nom, car comme dit le proverbe 18, verset 10, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Vous savez, l'assurance du salut, aussi souhaitable qu'elle est, et le manque de cette assurance, aussi tragique qu'il est un phénomène terrestre. C'est quelque chose qu'on ressente ici par terre. Mais quand nous arrivons au ciel et que nous trouvons un jour devant le trône de Dieu et devant le juge, ce ne sera plus une question d'assurance, vous savez ça? Ce ne sera plus une question d'assurance. Il ne va pas nous demander « est-ce que vous avez eu l'assurance ?» Ce sera une question de droit et d'autorité. Est-ce que vous avez le droit d'entrer dans le ciel? Alors quel droit avez-vous de vous tenir devant Dieu et de vous appeler un enfant de Dieu, de vous dire, de vous présenter devant Dieu comme son enfant? Quel droit avez-vous? Il y a seulement une façon de procurer cette autorité. Elle doit être donnée, et elle est donnée seulement à ceux et à tous ceux qui reçoivent Christ et qui croient en son nom. Alors dans quel nom faites-vous confiance ce matin? Est-ce que c'est dans le nom de Jésus On a vu la signification de cette enfance, nous partageons sa nature. L'acquisition de cette enfance est un cadeau librement accordé. L'identité des enfants, c'est ceux qui ont reçu, qui ont cru en Christ. Et laissez-moi finir maintenant en considérant la réponse à cette enfance. Je ne vais pas prendre l'enfant, mais regardez encore 1 Jean chapitre 3 et verset 1. C'est quoi la réponse? Notre réponse à cette enfance du fait que nous sommes enfants de Dieu. Nous voyons deux réponses. La première vient de la part des croyants, des enfants eux-mêmes, et la deuxième de la part du monde. De la part des croyants, regardez 1 Jean chapitre 3 verset 1, il dit « Voyez quel amour le Père nous a donné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Voyez ou regardez, c'est une invitation à regarder avec de la merveille et de l'étonnement. Et le mot grec qui traduit quel amour ou quel genre d'amour se trouve 6 fois seulement dans le Nouveau Testament. Et si vous regardez les dictionnaires, ils vont vous dire que ça implique toujours l'étonnement et l'admiration. Voyez, quel amour! Alors nous sommes étonnés, nous sommes stupéfiés, humiliés par tant d'amour. Où est donc le sujet de se glorifier, dit Paul? Il est exclu. Nous ne pouvons qu'adorer humblement. Cet amour est hors pair. Regardez, quel amour! Et nous devons l'adorer à cause de son amour. Ça, c'est la réponse de la part des croyants. Et puis, de la part du monde, c'est mystérieux. Si vous regardez la deuxième partie de ce verset, il dit « Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. » Ils ne le connaissent pas, ils ne le comprennent pas, parce qu'ils n'ont pas connu Dieu. Et puisqu'ils ne peuvent pas se relier à cet aspect de notre nature, ils ne peuvent pas le comprendre, ils cherchent toujours à trouver d'autres explications humaines. Ils essayent d'expliquer, si vous avez des parents qui ne sont pas sauvés, ou des amis qui ne sont pas sauvés, et votre vie a changé, et maintenant vous avez d'autres joies et l'amour pour Dieu, ils ne comprennent pas, ils vont toujours essayer d'expliquer dans des termes humains. Parce que c'est exactement ce qu'ils ont fait avec Jésus, même sa naissance. Ils ont essayé de l'expliquer dans les termes humains, avec des explications humaines. Et ils font le même avec nous, parce qu'ils ne nous connaissent pas. Parce qu'ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Voyez quel amour le Père nous a donné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. J'espère ce matin, mes amis, que vous connaissez le Père, que vous êtes son enfant et que ces choses ne sont pas un mystère pour vous. Et je vous invite de croire et de mettre votre confiance en Jésus-Christ.